RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous prenez la parole au 32-16. De quoi va-t-il être question là dans la suite du programme des GG des grandes gueules avec Abel Boyer, l'éducateur, Fatima Ibounoua, la prof de français, et avec Emmanuel Devilliers, de la conservation des petites maternités à Saint-Amand-Montrond. On donne 1000 euros pour accoucher. La canicule, est-ce que ça peut vous faire déménager? 80% des Français ont reconnu souffrir dans le logement. Un tiers sont prêts à déménager. Est-ce que c'est votre cas? On reparlera aussi de la star de YouTube et des réseaux sociaux, Guillaume Play, qui se retrouve dans la tourmente avec son média Légende, avec des accusations de harcèlement, de mauvais comportement. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait? Est-ce que c'est la fin de la légende Guillaume Play? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. En attendant, premier sujet de discussion, les petites maternités, les petites structures hospitalières. Face au risque de fermeture de la maternité de Saint-Amand-Montrond, on est dans le Cher, le maire a mis en place une prime de naissance de 1000 euros en chèque cadeau pour venir accoucher chez lui. Écoutez.
Avoir un service aussi compétent en ayant moins de naissances que 300. On est aux alentours de 200, mais on est en train de progresser. On peut aller accoucher à Saint-Amand-Montrond, percevoir 1000 euros alors qu'on irait accoucher dans une maternité de même distance sans les 1000 euros. Bah écoutez, qu'elles viennent chercher les 1000 euros. En fait, il faut qu'on conserve notre maternité effectivement pour que des jeunes viennent s'installer à Saint-Amand-Montrond. On va résister, c'est un bras de fer entre les collectivités locales et puis Paris.
Et oui, pourquoi est-ce qu'il dit on est dans un bras de fer entre les collectivités locales et puis Paris? D'abord parce que vous savez qu'il y a un budget, il y a un trou colossal, il y a une dette, des déficits, il faut trouver de l'argent. Il y a un rapport qui existe, il émane d'un médecin d'ailleurs, le député Les Républicains Philippe Juvin, il dit il faut supprimer certains petits établissements ou alors regrouper leurs moyens. Cette mesure, dit-il, permettra à l'État de réaliser entre 800 millions et 1 milliard 200 millions d'économies. Et ça, c'est la Cour des comptes qui l'a chiffré. Et ce que disent des médecins, ce que dit la Cour des comptes, c'est que dans les structures hospitalières où on opère moins, les risques sont un peu plus importants pour les patients. Mais le maire, il dit, moi je suis désolé, moi j'ai déjà une petite commune, j'ai des gens, ils ne doivent pas faire 30 ou 40 kilomètres pour aller accoucher ou aller se faire soigner. Alors le débat est ouvert, est-ce qu'effectivement il a raison? Est-ce qu'il faut maintenir les petites maternités et quitte à donner de l'argent aux gens, enfin des chèques cadeaux de 1000 euros pour venir y accoucher? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules, Abel Boyer.
Moi il y a quelque chose qui me gêne, évidemment qu'il faut maintenir les maternités, les hôpitaux de proximité, la médecine de proximité de façon globale. Mais ce qui me gêne c'est le langage qui est utilisé quand j'entends monsieur dire, allez qu'elle vienne chercher les 1000 euros. Il y a déjà d'autres candidats putatifs à la prochaine élection présidentielle qui parlait pareil de prime à la naissance pour réarmer le pays démographiquement. En fait, on est en train de tomber sans s'en rendre compte d'un vocable de la monétisation du corps de la femme, en fait. Parce que le fait de conceptualiser, de tomber enceinte pour une femme, c'est pas pareil en termes de préparation psychologique, physique que pour un homme. Donc maintenant, on lui ramène dans la tête que, en plus, si tu veux, ça peut être le jackpot, ça peut être le loto. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement néfaste et que les politiques devraient chercher d'autres moyens. Honnêtement, je suis pas pour ce moyen-là d'appâter les familles. Ah ben voilà, 1000 euros pour un bébé, 10 000 euros d'aide, tu vois, je donne des chiffres au pif, mais c'est pas bon en fait. C'est vraiment pas bon et ça va donner quoi comme type de famille? Parce que l'autre tabou qu'il y a, c'est des choses que je vois avec et les
imagine
gens.
Imagine que l'accouchement se passe mal en plus.
Imagine que ça se passe mal et comment on gère l'après. Mais je vais parler d'un tabou parce que tu vas voir en quoi c'est lié. Moi, j'interviens auprès de beaucoup de jeunes dans l'année. Moi, combien de fois je n'ai pas des témoignages de jeunes qui me disent dans la famille, on est peut-être 3, 4, 5, mais moi, j'étais l'enfant des aides sociales et mes parents m'aiment moins que les autres et mon père me l'a balancé en plein visage. Il y a déjà des cas comme ça sur le terrain et dans beaucoup de familles. Donc moi, j'ai pas envie qu'on tombe dans une situation où on va appâter en fait les gens. Faire un bébé, c'est pas pour gagner au loto. C'est un projet de vie, en tout cas normalement.
Alors, moi, je m'inscris en faux avec ce que vient de dire
Emmanuel
Abel, dans la mesure où le maire fait preuve de débrouille et il est face à un problème local et c'est l'ensemble du système de santé qui est en train de se rétracter parce qu'il ne tient plus la route. La sécurité sociale, dans sa dénomination même, est un terme complètement désuet et qui n'est plus crédible parce que le tout public, le tout gratuit. Charles évoquait il y a quelques jours qu'il suffit de s'installer et de s'asseoir sur une chaise dans une pharmacie pour voir défiler tous les ayants droit et voir le budget de l'État à flot continu comme la fonte des neiges. Donc là, c'est une réaction locale avec un certain panache. Et il est vrai qu'en matière de maternité en particulier, la proximité a un rôle clé.
Et tu es pour maintenir ces structures ?
Oui. Oui, parce que sinon on va vers une aspiration vers les grands centres urbains, qui est une déshumanisation, qui est une soviétisation de la France. On le retrouve sous d'autres aspects. Et c'est un processus irréversible qui ne réglera rien des problèmes de déficit et de l'implosion à terme de la sécurité sociale, puisque les budgets publics ne pourront plus faire face.
Est-ce que l'argument...
Mais en plus, on aura dévitalisé toute la France, dévitalisé comme avec les communautés de communes, comme avec les nouvelles communes de François Hollande, où on a changé des noms qui existaient depuis le Moyen-Âge. On est en train de faire de la France une espèce de territoire impersonnel. Et cet exemple de maternité est une belle résistance locale de ce maire, encore une fois, avec un certain panache.
Fatima Hinebounois.
J'écoutais un journaliste qui s'appelle Anthony Cort ou Cortès qui a fait une enquête. L'enquête, c'est une enquête sur la surmortalité infantile en France. Ouais. Et c'est très inquiétant puisque, en fait, la France est 23e sur 27 au sein de l'Union européenne en ce qui concerne la mortalité infantile. Il y a 4 bébés sur 1000 environ qui meurent avant leur 1 an. Donc ça devrait nous interpeller. Et surtout, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait plus de 900 000 femmes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, avec la disparition de certaines maternités, on s'est éloigné. Et vous savez très bien qu'après les contractions, il y a ce moment qui est très important. Plus on s'éloigne, plus on prend des risques. Parce que finalement, on ne sait pas, c'est pas une science exacte aussi, le moment où l'enfant va sortir. Et donc, on prend des risques quand c'est très très loin pour aller accoucher. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que à Paris, on est bien. Quand on vit à Paris, c'est comme tous ces problèmes. Tant que ça ne concerne pas les Parisiens, on n'en parle pas trop.
Voilà.
Soit Paris, grande ville. Mais quand moi, j'ai plein de copines qui vivent, parce que j'ai grandi à Poitiers, donc mes amis sont aussi dans des petites villes, dans des villages, et elles me disent la question pour les enfants, quand les enfants sont malades, mais aussi quand t'es enceinte, trouver une maternité, il faut aller très loin. C'est une inégalité dès les premières années de la vie, on est dans l'inégalité totale. Donc c'est une question. Et on parlait d'économie, mais économie à quel prix ? Vous savez qu'il y a des économies qui coûtent cher. C'est exactement comme les gens qui disent « Ah non, non, pour un enfant, je vais pas te mettre un appareil dentaire, ça coûte cher quand t'es petit. » Et finalement, une fois âgé, t'es obligé de faire tout un travail et tu perds des choses.
Il faut appâter les parents avec un argument financier.
Lui, il est désespéré, je pense.
Je pense que le maire de Saint-Amand-Montrond,
il cherche un moyen.
Ce qu'il essaye, parce que tu entends ce qu'il dit, il me faut un seuil de 300.
Et juste
300, je maintiens mon activité. Donc ce qu'il dit, c'est en faisant ce cadeau, il sait un, qui va médiatiser son affaire, et c'est surtout le but du jeu. Deux, c'est de dire, regardez, moi je suis entouré de grandes villes, Saint-Amand-Mouron, il y a Bourges, il y a d'autres villes du département, sur 10 ou 20 naissances, si je peux en récupérer une ou deux à chaque fois, eh bien si tu veux, moi ça m'aide, m'aide à maintenir ce service. Mais je trouve quand même, il y a l'argument comptable, mais il y a aussi ce que disent les médecins. Moi j'ai regardé ce qu'ils expliquent aussi, les médecins. Ils disent dans ces établissements, ils disent sans remettre en cause l'efficacité médicale, ils ne sont pas forcément équipés lorsqu'il y a des complications, notamment en chirurgie. Si on en perd peu dans l'année, la qualité des soins et la sécurité des patients n'est pas forcément présente. C'est le tout venant, il y a des guillemets si tu veux, au tout venant, qui permet d'être pris en charge, mais les complications, vous allez être forcément transférés dans les grandes villes. Alors je comprends l'argument de dire... Il faut garder l'hôpital, il faut garder la petite maternité parce que dans l'urgence immédiate, eh bien, t'as un service. Mais est-ce qu'il reste toujours efficient? Parce que tu vois, 100 naissances dans l'année dans ce service, dans cette maternité. 100 naissances, 110. Le reste du temps, Tu fais quoi quand tu es médecin ou quand tu es infirmière?
Oui, mais il y a plein d'accouchements. C'est comme la maternité des Lilas. Effectivement, s'il y a des complications, tu vas ailleurs. Mais maintenant, ça a fermé. En tout cas, une partie du service a fermé. C'est des économies. On va déguiser les économies en disant d'autres choses.
Il ne faut pas tomber dans la logique comptable.
Il y a des questions où il faut faire attention. C'est comme pour les maisons de retraite où on s'est dit, on va gérer les vieilles personnes, les personnes âgées comme si c'était, on gère pas l'humain comme si c'était du matériel en vrai. On va pas dire, on peut pas dire, vous voyez, par exemple, pour les enfants, pour les bébés, comme pour les personnes âgées, comme pour les personnes vulnérables, d'eux, on fait comme si on pouvait compter, tant de minutes par, et on va diviser. Mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Parce que c'est de l'humain. Des fois, la personne, elle a besoin qu'on lui change sa protection. Ça prend plus de temps. Donc, il y a tout ça où ils sont pas sur le terrain et on a encore des politiques déconnectées. Et pire que ça, juste fini sur ça, des politiques qui veulent cacher la vérité. Parce que le canard enchaîné, c'est ce que je disais tout à l'heure et je le redis, le canard enchaîné avait écrit début août que la ministre refusait depuis 7 mois de rendre public un rapport qui analysait les causes de la mort de milliers de nourrissons en France. Et c'est parce que le canard enchaîné en a parlé qu'après ils l'ont rendu public. Mais vous voyez bien que pour vraiment endormir le peuple comme d'habitude et pour dire dormez braves gens, il n'y a pas de problème, on commence à avoir un gros problème.
Alors, on a Magali, attends, dans un instant je donne la parole à Emmanuel, on a Magali qui est régulatrice au SAMU qui nous appelle du Loiret. Bonjour Magali. Bienvenue Magali, bienvenue sur RMC dans les GG, bienvenue Magali. Qu'est-ce que vous en pensez alors Magali de cette affaire des petites maternités?
Moi, quand j'ai fait l'école des assistants de régulation médicale du SAMU, forcément, sans surprise, on traite l'accouchement, la pathologie, la gynéco, l'obstétrique. Et en fait, on appelle vulgairement, on vulgarise en disant c'est la clinique des oiseaux bleus. Et en fait, on ne fait bien que ce qu'on fait régulièrement. 200 accouchements par an, c'est même pas un par jour. Et en fait, on aborde ça en expliquant que pour maintenir la compétence, c'est très difficile quand on fait même pas un accouchement par jour. Et en fait, la particularité de la gynéco-obstétrique, c'est que c'est une discipline, ça va bien. Mais quand ça va mal très vite, ça va mal très gravement et ça va mal très gravement très vite pour deux personnes. Et moi, je suis pas forcément pour le maintien de ces petites maternités. C'est ce que je disais aux collègues, c'est beau, c'est pur, ça nous élève, c'est de la médecine de territoire, c'est du maillage, mais c'est du maillage qui perd sa compétence. Et moi,
oui, parce qu'en plus, les populations sont allées vers les grandes villes aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Il y a une migration de population. Alors, je comprends. Le monsieur le maire, il vient d'être élu. Réélu d'ailleurs avec la promesse de garder la maternité.
Je trouve que de marchander à hauteur de 1 000 euros, j'ai le même concept qu'Abel. Je trouve c'est pas beau.
C'est cynique.
C'est pas un bel appel. Mm-hmm. Et moi, je trouve que 200 accouchements par an, je trouve que ces femmes, en fait, qui privilégient la proximité, elles prennent le risque d'aller dans un établissement où s'il se passe un truc, les gens, ils sont pas compétents, ils savent pas réagir dans l'urgence. Et en fait, nous, on appelait ça la clinique des oiseaux bleus. Mais il y a du péril à aller dans ces établissements parce qu'après, il faut organiser les transferts. Je trouve pas qu'il y a d'intérêt. Et quand on dit oui, la proximité, sinon il faut faire 60 bornes. Mais on a 9 mois quand même pour anticiper l'accouchement. Il y a des choses qui se préparent. On n'accouche pas non plus comme ça dans la demi-heure.
Magali, vous savez qu'il peut très bien y avoir, peut-être dans les dernières semaines de l'accouchement, il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui se passe.
Et donc là, vous vous dites, mince. Mais s'il y a un imprévu, c'est pas cette petite clinique-là qui le gère, ça c'est clair. S'il y a un imprévu, il faut aller sur une matière avec un plateau technique plus opérationnel.
Exactement. Et je reviens sur ce que dit Magali, je suis désolé, je reste dessus, c'est cynique de rattacher le corps de la femme de la naissance avec un billet de 1 000 euros. Je suis désolé, quand il dit qu'elle vienne chercher les 1 000 euros, cette phrase elle est honteuse. C'est sexiste, c'est-à-dire qu'on rentre petit à petit. Attends, et en plus Emmanuel, toi qui dis toujours, il y a trop d'aide, c'est encore une aide qu'on va proposer.
Me
coupes la parole, tu peux répondre.
Et puis du coup, ça va faire un appel d'offres, on va emboliser ce service-là qui n'est absolument pas prévu ni dimensionné pour faire face à un accroissement des accouchements qui vont être appâtés par le gain. Moi, je trouve pas ça très...
Il faut aller accoucher à Francfort, ça sera plus pratique.
Il faut aller accoucher dans un hôpital où il y a un plateau technique opérationnel, Emmanuel.
Chère Magali, il y a 70 ans, on accouchait à domicile, soyons sérieux.
Il y avait un taux de mortalité qui crevait le plafond.
Dans ce cas, roule en charrette et prends un cheval aussi.
S'il te plaît, non mais évite des anathèmes, ma belle.
Il y avait un taux de mortalité qui était plus important.
Attendez, Magali, je voudrais simplement
souligner que dans une petite maternité de ce type, il y a aussi un suivi personnel dans ce moment crucial de l'accouchement et des moments qui suivent, qui est plus humain que dans une grosse structure. Il faut quand même prendre ça en compte aussi.
Non.
Et quant à l'aide de 1000 euros, Abel.
C'est pareil partout. Il y a des durées séjour, il y a des durées moyennes de séjour.
C'est pas mon vécu. Écoutez, Magali, je respecte votre expertise et votre compétence, mais moi, c'est pas mon vécu de père de famille. Oui, quant aux 1000 euros, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais te voir à la place du maire, lui. Il est responsable de sa commune et c'est pas du tout du proxénétisme ou je sais pas quoi. Il donne 1000 euros, c'est une petite aide, mais 1000 euros pour du matériel prénatal, c'est très important. Avec 1000 euros, on achète beaucoup de choses quand on n'a pas d'argent.
Donc tu es pour les aides sociales, tu es pour plus d'aides.
Mais ne mélange pas tout, on parle du cas concret.
Mais t'es contradictoire, c'est une nouvelle aide.
Il va se retrouver avec une embolisation.
Il y a un déficit social de 600 milliards, là on parle de 1000 euros. Essaye d'avoir le sens.
1000 euros fois 300, puisqu'il faut 300 pour pouvoir fonctionner. Et s'il y en a plus qui viennent, c'est minimum 300 000 euros.
Après ça va s'arrêter, j'imagine. Allez-y, pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit.
Moi, je trouve qu'il va emboliser son service qui n'est pas dimensionné pour accueillir autant de personnes qui seraient appâtées par les 1000 euros. Et vraiment, moi, je dis 200 accouchements par an, c'est même pas un par jour.
Oui, mais Magali, pardon encore d'une contradiction. Cette maternité, elle existe depuis très longtemps. Pourquoi toujours changer, toujours soviétiser la France, toujours assécher notre pays?
C'est pas la soviétisation, c'est de la technicisation. On reporte vers des plateaux techniques plus opérationnels des moments clés. L'accouchement, c'est une médecine qui va bien. Mais quand ça va mal très vite. Et pour deux personnes, le bébé et la mère. Ces établissements, factuellement, c'est beau, c'est pur, ça nous élève de les maintenir.
Ils existaient depuis longtemps, Magali. Ils ont toujours existé.
Il y a un argument.
Je ne sais pas si vous avez entendu Magali et Fatima, Emmanuel et Abel. Ce que dit le maire, il dit, moi je veux aussi, Saint-Amand-Moron c'est 8000 habitants. Il doit se rendre compte que petit à petit les gens partent de Saint-Amand-Moron. Et ce qu'il veut, c'est maintenir aussi un vivier de population. Il dit, moi si on ferme ma maternité, finalement les gens ne viendront pas.
Je suis pas sûr, c'est l'histoire d'un moment d'une vie, l'accouchement dans une maternité. On part pas d'une commune parce que il y a pas de maternité.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec vous, Magali. Je pense que l'argument ne tient pas. Je pense que c'est pas une question de maternité. Alors effectivement, accoucher ensuite à l'hôpital de Bourges, c'est à 40 minutes à peu près de Saint-Armand-Moron. Mais je pense qu'une famille s'installe si le cadre de vie est bien, si elle sait qu'il y a ne serait-ce que des médecins de proximité. Si tu sais que tu as des médecins généralistes, pharmacie, que tu as des infirmières, rien que ça, une bonne école pour tes enfants et que tu as ton job, je pense que ça, c'est le principal.
La décision d'accoucher à Saint-Armand-Moron, c'est une décision des parents. Pourquoi elle est privée de cette liberté?
Mais Magali, dans la grossesse, il y a pas seulement l'accouchement, il y a tout le suivi. Ça veut dire on peut choisir aussi une maternité de proximité parce qu'il y a tous ces moments, surtout quand c'est la première grossesse, où il y a des inquiétudes, où on veut y aller. Et effectivement, quand c'est très loin de chez soi, on se dit, je sais pas moi, la pré-éclampsie, comment ça s'appelle ? Enfin bon, il y a plusieurs maladies qu'on peut détecter quand on est vigilante. Et des fois, si c'est très loin, on va avoir le ventre tendu, on va dire bon, c'est pas trop grave, c'est tellement loin, je vais pas y aller. Alors que si c'est plus près, effectivement, il y a ce suivi parce qu'il y a la proximité aussi. Il y a des femmes qui font ce choix de proximité. J'ai choisi une petite maternité. J'étais pas du tout pour mes deux enfants, et c'était un choix. C'était pas loin de chez moi.
Je vous remercie.
Et petit, comme
Magali.
Et humain.
Merci d'avoir été avec nous, Magali. À bientôt.
Merci beaucoup,
dans
Magali.
Dans les GG, dans les grandes gueules. Alors, prime de naissance pour sauver les petites maternités. Bonne idée ou pas? Ah, eh ben, vous êtes très critique plutôt.
Oui, mais en fait, les gens veulent sauver la maternité. C'est ça que tu comprends pas. On est d'accord sur le fond, mais c'est le moyen pour y arriver.
Oui, mais
moi, je
ne
suis pas pour la prime.
Je trouve, à plus de 60%.
Tu donnes une gravité morale à cette allocation de 1000 euros.
Mais si, mais c'est honteux de rattacher le corps de la femme à de l'argent. Je suis désolé.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, cette étude du Bon Coin, figurez-vous que la canicule, ça pousse les gens à vouloir déménager. Est-ce que vous pourriez déménager à cause des fortes chaleurs, à cause de la canicule? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, c'est avec vous bien sûr, c'est au 32-16 que, comme Magali à l'instant, que vous prenez la parole, que vous venez témoigner, que vous dites ce que vous pensez, en toute liberté bien sûr. On va s'intéresser aux effets de la canicule et l'envie de déménager des Français. Alors, il y a cette étude qui est réalisée par Le Bon Coin Immobilier. 81% des Français déclarent ressentir aujourd'hui l'inconfort lié à la chaleur. Et on a un tiers des gens qui disent, si ça continue, moi je pourrais me barrer. Mmh. Je pourrais quitter mon appartement, pourrais quitter ma maison, si la canicule s'intensifie. C'est le scénario qui nous est présenté. Mmh. Écoutez, justement, cette riveraine, elle est niçoise, et elle raconte ce qu'elle a vécu dans son appartement.
C'est pas un sommeil réparateur. Je me réveille toute la nuit, entre les bruits de l'extérieur, la chaleur, le fait d'être moite, de pas être bien et tout. Donc le matin, je me réveille fatiguée. Honnêtement, j'ai du mal.
Et puis alors là, ça dure. C'est-à-dire qu'on est sur un phénomène qui est encore plus long que la canicule de 2003. Donc la canicule peut-elle vous faire déménager, remettre, parce qu'un déménagement, c'est on remet en cause de sa vie. Alors sauf si on déménage dans le quartier, mais à ce moment-là, si on déménage dans le quartier ou on reste dans la même ville, c'est pour être sûr d'avoir un logement qui soit mieux isolé, d'avoir la clim, d'être exposé d'une autre manière. 32-16 pour en parler avec les G, avec les grandes gueules. Emmanuel.
Oui. Alors moi je crois qu'il faut savoir raison garder à nouveau. Et on est dans un contexte de récurrence caniculaire inédite et sans doute proprement exceptionnelle. On n'aurait jamais pensé, début juillet ou courant juillet, qu'il ferait aussi beau en août, puisqu'il y a toujours une alternance depuis tous les étés, depuis des décennies. Là, c'est un cas, à mon sens, quand même particulier. Et de toute façon, changer de logement, c'est pas du tout la garantie de trouver mieux. Je crois qu'il vaut mieux s'accommoder. Évidemment, il y a des cas extrêmes qui sont insupportables, mais il y a le recours à la climatisation. Mais c'est cher. Et quand même, le ventilateur, je reviens toujours au ventilateur. Moi, j'ai fait mon service en Guyane française où il fait excessivement chaud, excessivement humide. Le ventilateur était à l'époque omniprésent. Et il y a quand même une baisse d'à peu près 7 ou 8 degrés de ressenti. Donc, si on est à des pics entre 30 et 40, pour peu d'être peu vêtu, c'est quand même probablement encore viable. Donc il ne faut pas, pour une période donnée très ponctuelle, remettre en cause toute sa vie, à mon avis.
Fatima.
Pour moi, quand ton appartement est une passoire thermique, ça devient invivable. C'est invivable financièrement, parce que ça coûte cher. C'est comme si en hiver comme en été, parce que quand c'est une passoire thermique, les problèmes que tu rencontres avec la chaleur, tu les rencontres aussi avec le froid. Ce qui fait que soit tu payes cher pour te chauffer, soit tu payes cher pour essayer de trouver un peu d'air. Donc déjà financièrement c'est compliqué. Ensuite, du point de vue de la santé, il y a cette question du sommeil. On ne dort pas. Donc ne pas dormir un jour, deux jours, tout, il y a toutes les conséquences de cette absence de sommeil, parce qu'il va faire très chaud, et surtout tu récupères pas, parce que quand c'est des petits épisodes, après tu peux récupérer. Donc moi je comprends complètement l'envie de changer, surtout encore plus si tu vis avec des enfants jeunes ou avec tes parents, une personne âgée. Moi j'ai eu ma mère chez moi pendant quand elle était malade avant de décéder. Toutes les personnes qui vont être malades, un peu vulnérables, effectivement, le bien-être du logement. Où est-ce que tu... Pour moi, un logement, c'est ta base. Vous voyez, c'est comme un avion. Déjà, on lutte. Franchement, la vie est dure. Tu te bats dehors, tu mets ton énergie dehors, tu reviens chez toi. Il faut que tu puisses reprendre tes forces. Lorsque, quand tu reviens chez toi, tu peux pas reprendre des forces parce que physiquement tu souffres, toutes les maladies de circulation.
Tu dois faire un choix à un moment,
bien entendu, on l'envisage très sérieusement. Moi, je me pose la question.
Chez toi?
Ah oui, parce que c'est.
Tu es monté jusqu'à combien en température?
Petit, je prends pas, mais c'était étouffant. C'était très étouffant. C'était le rez-de-chaussée, t'ouvres les fenêtres, ça fonctionne pas. Toutes les
techniques. Le rez-de-chaussée, c'est ça?
Tu vois, rez-de-chaussée.
T'as quoi? T'as le bitume devant toi ou t'as un petit jardinet?
Non, il y a un peu. C'est un immeuble, hein, donc il y a le petit jardinet devant. Mais tu peux pas ouvrir non plus parce que s'il y a des gens qui passent. Enfin, vous voyez, ceux qui sont au rez-de-chaussée, après, s'il y a des personnes qui passent, quand tu donnes sur la rue, il y a plein de choses.
Et puis tu donc, récupères toute la chaleur. Au rez-de-chaussée, tu récupères toute la chaleur de la rue.
Ouais, mais quand il fait aussi chaud.
Quand il fait aussi chaud, mais ça dure.
Comment trouver mieux? Comment trouver mieux en ville?
Ah bah tu trouves largement mieux. Je pense que les gens qui se posent la question, ils se disent on peut trouver
en ville. Là,
bah tu peux trouver mieux aussi. En tout cas, je comprends les gens qui se posent la question.
Ah ben, ce qui est terrible, c'est que non seulement alors que les écolos, je parle des vrais, hein, pas des sectaires et des fous, nous préviennent depuis des décennies. Non seulement on n'a pas vu venir la chose, mais on n'a pas compris aussi que le dérèglement climatique serait un facteur révélateur des injustices sociales entre les personnes qui vivent confortablement, qui ont les moyens d'aménager leur logement, qui ont la clim dans leur voiture, et les personnes qui ne peuvent pas. Tu parlais des personnes âgées qui sont hébergées chez leurs parents, mais les personnes âgées dans des passoires thermiques et seules, c'est vraiment terrible, avec des décès que l'on constate à chaque fois. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal que des personnes se posent la question, parce qu'il y a un véritable écart. Moi, honnêtement, j'ai de la chance de faire partie de ceux que la canicule, franchement, je la passe wallou. Franchement, je suis bien parce que...
T'es en appartement ou t'es en maison?
Et en plus, quand le soleil est à son zénith, moi j'ai de la chance, c'est que c'est pas face à moi, c'est au-dessus.
D'accord.
Donc je suis toujours...
Tu as un jardin?
Oui, j'ai un...
Tu as des arbres?
Un grand
t'as
jardin,
la clim? Non.
Je suis équipé, j'ai pas de clim, j'ai des ventilos, mais je suis... Franchement, ça se passe wallou. On a chaud comme tout le monde, mais quand je vois ce que vivent d'autres personnes, honnêtement, j'ai pas à me plaindre du tout. Donc moi, je suis dans cette catégorie-là. Mais d'autres sont vraiment en train de galérer. Joël a fait le témoignage aussi de son ressenti de 40 degrés. Lorsqu'elle rentre chez elle, 40 degrés peut être un peu excessif, mais ça révèle aussi une réalité. Donc on peut pas, en fait, limite caricaturer les personnes qui pensent à ça, parce que ce sont des détresses sanitaires, ce sont des détresses sociales, parce que quand on ne se sent pas bien, on n'est pas performant dans la vie, tout simplement.
Ouais. Ce sont aussi... pas bien au boulot.
Ben oui, et puis même, ce sont des sujets de déstabilisation et de tension familiale aussi, il ne faut pas croire.
Et puis ça
rajoute à l'ambiance anxiogène, parce qu'on ne sait pas où on va. Comme tu dis, dans une semaine, il peut pleuvoir et faire moins 15 degrés par rapport aux températures d'aujourd'hui. Dans deux semaines, ça peut repartir. Est-ce qu'on va avoir un été froid? Est-ce qu'on va avoir un été chaud? Est-ce qu'on va faire une émission des GG où on va dire verglas, neige? On ne sait pas. On ne sait plus sur quel pied danser. Donc, on est anxiogène. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'une personne qui puisse se dire, si je peux déménager, je déménage. Et la dernière injustice, c'est quoi? C'est que le marché de l'immobilier est concerné. Parce que entre le locatif où il faut se battre pour accéder à la location et y rester, et l'accès à la propriété où quand tu as l'argent, ben tu mets la maille sur la table, tu as ton bien, alors que dans le logement, tu as des problèmes aussi où le propriétaire, c'est à la tête du client. Donc tu as tous ces problèmes-là aussi qui vont être pas révélés, mais amplifiés avec le réchauffement climatique.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais. Tu disais, moi, ça m'impacte, ça me fait réfléchir, justement, cette canicule. C'est-à-dire, dans ces cas-là, c'est toi qui réfléchis ou c'est dans la famille, tout le monde se dit, maman, là, on n'en peut plus, ou ma chérie, on n'en peut plus, faut qu'on, si ça se renouvelle, on tiendra pas, on pourra pas passer tous les étés comme ça. Même si, comme le disait Emmanuel, c'est une période qui dure, allez, collé, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois sur 12, ou un mois et demi maximum
c'est un été spécial.
Sur 12. Là, c'est un été spécial. Peut-être, oui, mais peut-être qu'il reviendra l'année prochaine. Regarde là, les fortes chaleurs, quand est-ce qu'elles ont commencé? Elles ont commencé au mois de mai, on a tout de suite eu une montée de température, après ça peut retomber. Et puis là, je ne sais pas, on est à plus de 30 degrés depuis plus de 3 semaines, un mois maintenant. Mais largement plus, Fatima.
Moi déjà, je pense, c'est surtout, tu penses aux enfants. Donc moi j'ai de la chance, mes enfants parlent, et voilà, ils sont ados, ils peuvent patienter. Mais quand tu as un bébé avec ces températures-là, c'est très éprouvant pour les bébés et pour l'anxiété que c'est. Je sais que ma mère, à l'époque, elle s'occupait d'une personne âgée. Il fallait sans cesse se demander, est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a soif? Parce que vous savez, plus on vieillit, moins on va avoir ce signal de soif. Donc, il y a aussi, quand tu prends soin de quelqu'un qui n'est plus en capacité ou qui n'est pas encore en capacité de prendre soin de lui, ça te met en survigilance, en charge mentale énorme pour les mères de famille. Donc, effectivement, ces décisions-là, pour moi, c'est des décisions de famille. De toute façon, à partir du moment où tu es en famille, tu es un groupe, il faut décider ensemble. Après, effectivement, c'est très dur de trouver. Tu as très bien dit, Abel.
Il y a deux choses.
C'est compliqué.
Tu vois, c'est trouver un logement ou quitter la région. Oui. Tu vois, parce qu'il y a des degrés. Bah, c'est le cas de le dire, il y a des degrés. Parce que tu peux très bien dire, je quitte mon appartement.
Non, mais je te dis clairement, mais moi, si je n'étais pas professeur, j'aurais quitté Paris depuis longtemps. Déjà, je suis une fille de la campagne. Je viens de Poitiers, je suis pas une fille des villes. Vraiment, il y a des personnalités comme ça. Moi, je suis une fille de la campagne. J'ai grandi à Poitiers. C'est les villes que j'aime, c'est les ambiances que j'aime. Mais en tant que professeur, je dépends de mes points. Donc, je dois faire des vœux et j'aurai jamais la ville. Donc, soit je démissionne, je quitte mon métier et là, je peux aller où je veux. Mais je ne suis pas libre d'un point de vue.
Parce que tu as aujourd'hui des régions, on te dit, ça va être insupportable.
Mmh. Ah bah, c'est
tu vois, des zones dans le sud-est ou le long de la vallée du Rhône où vous allez monter à 35 ou 40 degrés régulièrement. Regarde, on a dépassé les 40 degrés. Là, hier, on a encore battu 140 records de température par rapport au jour précédent. Et les schémas te montrent que finalement, ça va revenir d'été en été. Donc, dans ces cas-là, tu te dis, soit je change d'appartement, je reste dans ma ville, je trouve mieux isolé, ou avec une climatisation, ou je fais des travaux, si tu peux les faire, je fais les clims. Et puis, t'as des gens qui disent, moi, désolé, je peux plus, je vais pas passer, tu vois, juin, juillet, août, même 4 mois de l'année, avec des températures qui sont insupportables. Je préfère quitter la région, trouver une mutation, et m'installer ailleurs.
Et calculer financièrement.
T'en peux plus, quoi.
Et puis, calculer financièrement, parce que pour l'électricité, pour tout, si en hiver, c'est rebelote avec les passoires thermiques, il y a un moment, tu fais ton calcul.
J'émets une objection sur le fait que tu mets en parallèle un logement qui a un problème avec la canicule a aussi un problème avec l'hiver.
Non, mais des fois, quand c'est les deux.
On pense que c'est deux types de
logements. On a Cyril qui veut intervenir dans la discussion. Cyril qui est du côté de la Gironde où il n'a pas fait froid non plus. Bonjour Cyril.
Bonjour les GG.
Bonjour. Vous êtes en appartement, en maison ?
Je suis en appartement en plein Bordeaux-Centre et... J'écoutais Emmanuel tout à l'heure, c'est ce qui m'a fait réagir. Nous, depuis juin, on a eu des pics à 48 dans l'appartement, constamment. J'ai 35 degrés, constamment. Et en plus de ça, on a eu les incendies, donc avec les fumées.
Oui.
C'est-à-dire que quand ça arrive, on est obligé de fermer les fenêtres.
Mais oui.
Donc en fait, c'est terrible. Et moi, je sais que je suis dans un HLM+, c'est-à-dire que comme je travaille, je n'ai pas forcément droit au HLM, donc c'est un HLM+, qu'ils appellent. Et moi, je suis prêt à payer la clim. Mais il faut qu'ils
prêt à faire les travaux vous-même, quoi, c'est ça.
Non, là, c'est insupportable. C'est tous les ans, déjà. Mais là, cette année, c'est encore plus. Tu vois, c'est pas à peu près pareil, il y a 4 ans.
Tout à l'heure, on m'avait dit 48, mais pas 48 dans l'appartement, quand même.
Non, 48 à Bordeaux. Ouais,
en ressenti,
au
bien
soleil,
sûr.
En juin.
Ouais.
En juin, il faisait 48.
Et vous dormez
en moyenne dans l'appartement, vous avez dit, vous avez eu 30-35 en moyenne?
Ah, je suis à 35 depuis un mois, je suis à 35 dans l'appart. Hein.
Et vous réussissez à dormir?
Bah, c'est compliqué. Alors, on a un plafonnier, j'en ai acheté un plafonnier, j'ai une petite clim portable. Mais quand il y a des fumées, on est obligé de fermer la fenêtre, donc pas de clim portable.
Et vous avez fait la demande pour les travaux ou pas?
Ben là, j'attends la fin d'été pour lancer ça. Ouais, c'est ça.
Et si jamais on vous l'accorde pas, vous déménagez?
Ah ben je pense que j'irai voir ma boîte pour revoir si c'est pas possible d'avoir un autre logement. Avec le pourcentage par trop mal.
Ouais. Vous confirmez le point de vue souvent répété d'Olivier Truchot qui est très favorable à la climatisation.
Ben il faut, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est indispensable.
Clim réversible à ce moment-là, ouais.
Oui. Ça devient très compliqué. C'est très très chaud à Bordeaux. Enfin, du moins dans ma ville, à Bordeaux, c'est hallucinant.
Mais
j'ai passé une semaine de vacances à l'extérieur. C'est bon, là, on perdait 4 ou 5 degrés. Dès qu'on rentre en ville, en fait, on prend 4 ou 5 degrés.
Oui. Cyril, dans votre appartement, vous êtes seul? Vous avez une compagne? Vous avez des enfants?
Oui, je vis avec quelqu'un.
Oui, d'accord. Qui est d'accord avec vous, j'imagine?
Ah ben oui, évidemment. Mais c'est très compliqué. Hein.
Ah oui, vous faites quoi comme travail?
Je suis ouvrier.
Ouais. Donc vous n'arrivez pas à vous reposer, à récupérer ensuite quand vous êtes chez vous.
Là, je suis en vacances, donc ça va. Mais c'est vrai que nous, on a eu la période caniculaire en juin. Je pense que c'était inédit. Mais là, en effet, là, quand il faisait 48 en journée, on a eu une semaine totalement folle. Et depuis, en fait, on est tous à Bordeaux. On a du mal à s'en remettre, en fait, de cette semaine-là. Parce qu'en fait, c'est jamais redescendu, quoi. En fait, c'est redescendu, mais on est resté à 40.
Mais vous savez, du coup, ça me fait penser dans les nouvelles constructions. Il faudra voir quelles sont les normes. Moi, je pense qu'un promoteur immobilier qui dit, moi, je construis un petit immeuble, 6 étages, clim pour tout le monde, ça va être un argument de vente. T'es pas obligé, de l'utiliser de toute façon. Tu vois, tu fais une bonne isolation. Tu dis, voilà, résidence avec toutes les nouvelles normes. et climatisation. Climatisation. Et tu verras, ça va être un argument aujourd'hui, surtout dans les régions dans le sud, ou couloirs d'aération. Je voyais maintenant des architectes qui montent, ce sont des volets, tu sais, coulissants, des volets en bois comme des. Avant, tu avais les persiennes. Et là, en fait, ce sont des grands volets persiennes coulissants qui créent avec du recul et qui créent des petits courants d'air.
Mais même
si
la couleur.
Si tu dis, vous avez des volets, et puis maintenant, des grandes baies vitrées, et puis en plus, vous avez la climatisation, je veux dire que le type, tu vas voir son carnet de commandes, il va s'envoler.
Non pas rassuré mais conforté Cyril, moi aussi j'ai eu très très chaud, j'ai très très chaud, tout le monde a très très chaud.
Quand on dit tout le monde a chaud, au Touquet, en Anjou, le fait est,
même donc au Touquet qui est dans le Pas-de-Calais, bien en haut de la France, on ne peut pas ouvrir, par exemple ce soir, je crois qu'il va faire environ, en pleine campagne, il va faire je crois encore 27 degrés à minuit, et ça va redescendre peut-être à 23, à 4, 5 heures du matin, donc on ne peut pas rafraîchir. Les chaleurs qui sont dans les maisons partout maintenant.
Oui, mais quand tu dis tout le monde a chaud, tu peux penser au présentateur là, c'est Yann Barthès. Ouais. Qui avait dit
je vis sous les toits, j'ai chaud.
Voilà, j'ai chaud, tout le monde a chaud. C'est vraiment la canicule, c'est comme le Covid, ça fait apparaître les différences de classe sociale.
La personne qui est en HLM dans une passoire thermique, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est dans
je vais être privilégié par rapport à un étudiant qui est sous les toits à Paris. C'est pas pareil, sous les toits déjà avec le petit truc un 9 mètres carrés étouffant, vraiment.
Mais il y aura toujours des injustices. La seule solution c'est le communisme, mais ça marche pas.
Non, pas du tout. Mais reconnaître déjà l'injustice, ça fait déjà du bien.
Merci à Cyril d'avoir été avec nous. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste dire aussi que nous-mêmes, dans nos habitudes, on va devoir nous-mêmes apprendre à anticiper, parce que on se plaint tous et à raison du fait qu'il fasse trop chaud. Mais quand en février-mars, il y avait certaines pointes à 22-23 degrés et que certains allaient déjà à la mer pour dire « Ah, l'eau est déjà à 17-18 degrés !» C'était génial. Et les mêmes, 3-4 mois plus tard, « Ah ben, on est en train de crever !» Donc
Et puis, on ne voit tout ce côté négatif, et encore une fois, le témoignage à l'instant est incontestable, mais il y a quand même un côté positif, c'est un été magnifique pour les enfants, pour tous les gens qui sont sur le littoral.
Il y a quand même un plaisir
du beau temps qu'il ne faut quand même pas, tout critiquer.
On va tous crever, mais on sera bronzé.
Voilà. Hey, mais tu vois, hier j'entendais des restaurateurs qui disent nos terrasses sont vides, quoi, tu vois.
Bah ouais.
Il dit nos terrasses sont vides et les gens ils viennent pas pour se mettre à l'intérieur. Il dit quoique quand on a la clim à l'intérieur, ils sont contents, mais ils ont 20 à 30% de perte de chiffre d'affaires.
S'il avait plus tout juillet et août,
12-13 degrés, est-ce que les Français seraient plus heureux par rapport à leurs vacances? J'entends, je ne pense pas.
On va regarder, est-ce que vous pourriez déménager à cause de la canicule? On a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous dites non, vous êtes plutôt sur la ligne d'Emmanuel, non, à 64,2%, mais on a quand même 35% des gens, ça corrobore l'étude du Bon Coin, exactement, 35% des gens qui disent oui, ça pourrait nous faire déménager. Dans un instant, on va s'intéresser à l'une des stars de YouTube et des réseaux, il s'appelle Guillaume Play, il se retrouve lui aussi dans la tourmente, Guillaume Play, accusé notamment de racisme, de sexisme, climat de travail délétère, des propositions indécentes à des jeunes filles âgées une jeune fille âgée de 14 ans. Ce sont des accusations. Il se trouve dans la tourmente, celui dont le média Legend draine des millions et des millions d'abonnés et de vues. À tout de suite pour en parler avec les grandes gueules au 32-16. Il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Abel Bouilly, l'éducateur, avec Emmanuel Deville, entrepreneur, avec la professeure de français Fatima Haïd Bounois. Tout à l'heure, je vous conseille d'être avec nous pour écouter le témoignage d'Antoine Valezan à partir de 11h. Il sera avec nous. Antoine Valezan, il a géré des dizaines d'appartements en location courte durée. Vous savez ce qu'on appelle gestionnaire de location touristique. Et au fil des années, à quoi il a été confronté? De quoi il s'est aperçu? Que bon nombre de ces petites locations saisonnières qu'il faisait, c'est devenu des studios de prostitution. Donc il y a été confronté à des réseaux organisés qui exploitent des jeunes femmes, des réseaux de violence aussi. Il a retrouvé des objets sexuels. Donc attention aujourd'hui. Et du coup, il en a fait un livre qui s'appelle Tous Proxénètes. C'est-à-dire que sans le savoir, on ne sait pas à qui on loue. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux Airbnb. Et il viendra en parler tout à l'heure. Il viendra témoigner. Peut-être que vous-même, vous avez eu cette mésaventure. C'est à vous de nous en parler au 32-16 à partir de 11h. En attendant, on va s'intéresser à une nouvelle personnalité qui se retrouve dans la tourmente avec des accusations. Il s'agit de Guillaume Play. Guillaume Play, son média Legend sur YouTube, il draine des millions et des millions de vues. Il reçoit des inconnus, des stars, il révèle des gens. C'est vraiment l'une des personnalités qui compte aujourd'hui sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Guillaume Play, il a 3,5 millions, quasiment 4 millions d'abonnés. La dernière interview retentissante, c'est une interview du patron d'LVMH, Bernard Arnault. Il avait reçu aussi Nicolas Sarkozy juste à sa sortie de prison. Bah, aujourd'hui, il se retrouve un peu dans la tourmente parce qu'il y a des accusations. Alors bien sûr, c'est présomption d'innocence, il faut toujours le rappeler. Mais c'est le magazine Les Arocs qui a donné la parole à des anciens employés qui décrivent un climat délétère dans le travail, du racisme et du sexisme. Les Arocs qui ont retrouvé aussi deux personnes avec qui il avait eu des échanges à partir de leurs 14-15 ans. Lui, il avait déjà quasiment le double lorsqu'il travaillait à la radio Énergie. Le Monde qui a ensuite livré un récit d'une autre jeune femme âgée de 14 ans à qui il aurait notamment évoqué la possibilité d'un plan à trois. Alors aujourd'hui, il dit tout ça, ce sont des allégations, il n'y a rien de prouvé, il se peut qu'il y ait des enquêtes, et je le rappelle, Guillaume Play, il est innocent. Il s'est défendu, et il avait sorti un livre au mois de juin dernier dans lequel il a dit, ah, c'est intéressant, il écrivait, parfois on était un peu con à l'époque, et on trouvait grisant de ne reculer devant rien. Il dit aussi dans ce livre, avec le recul, je comprends qu'on est plus choqué. Ça, c'est ce qu'il a dit il y a quelques jours. Alors, est-ce que Guillaume Play, c'est la fin de la légende? Est-ce qu'il doit se mettre en retrait de ses réseaux? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Monsieur Abel Bouilly.
Moi, tu sais à quel point le sujet des avances faites sur mineurs, envers des mineurs par des adultes me touche, puisque c'est sur quoi je travaille. Alors, on va respecter présomption d'innocence et je vais utiliser le conditionnel et ne pas m'emporter. Il y a quand même des filles qui avaient 14-15 ans à l'époque qui ont témoigné. Il y a des captures d'écran qui sont sorties. Guillaume Play, dans sa défense, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un premier communiqué en reconnaissant des attitudes qui étaient d'époque. Il était jeune, mais maintenant il a mûri. Il est marié, il est père. Et il a dit que certains messages étaient envoyés par des membres de ses équipes. Ce que ses anciens membres ont démenti tout de suite pour dire non, c'est bien lui qui envoyait les messages et je garde le conditionnel. Moi, ce qui m'agace le plus dans ça, oui, je pense qu'il doit se mettre en retrait, mais ce sont toutes ces personnes qui, dès qu'elles sont dans la sauce, disent c'était l'époque, à l'époque,
on
était jeunes. Moi, je suis désolé, maintenant je vais parler de façon plus grave. Quelle que soit l'époque, une femme n'a jamais accepté d'être agressée sexuellement ou violée. C'est pas parce qu'elle parlait moins à l'époque que là, c'était quelque chose.
C'est pas ce dont il s'agit.
J'ai dit de façon plus globale. J'ai pas dit que c'était lui qui avait fait ça. Je peux prendre aussi le cas de Pierre Ménès, qui était consultant sur une chaîne cryptée, qui, pareil, a pu embrasser une collègue de travail de force en plateau, a pu soulever la jupe d'une autre, c'est toujours, on peut plus rien faire, on peut plus s'amuser, si on peut plus embrasser une copine sur la bouche, où est-ce qu'on va? Maintenant, en fait, c'est des attitudes qui ont toujours été intolérables. Et c'est à nous les hommes, sans dire tous les hommes non plus, de faire attention à ce que l'on fait. Donc, la parole des femmes se libère, elle va continuer de se libérer, je pense que d'autres personnes vont tomber dans la sauce aussi.
Emmanuel.
Alors moi, Guillaume Play, je pense qu'il faut qu'il reste sur Play. Et surtout pas l'arrêter, parce que là, ce sont des procès en sorcellerie qu'on lui fait avec des bouts de trucs, de machin. Quelqu'un est célèbre comme lui, parce qu'il a du succès.
Il y a de la jalousie.
Il plaît à tout le monde. Il y a évidemment une jalousie de professeurs de morale aigris, qui parfois sont eux-mêmes plus des refoulés que qu'autre chose.
Mais là, c'est pas de ce dont il s'agit, là.
Oui, avances à des jeunes filles, tout ça. Si ça avait été aussi grave qu'on voudrait le laisser entendre, il y a longtemps qu'il y aurait eu des plaintes, il y a longtemps qu'il aurait été jugé.
Ah non,
il faut surtout pas qu'il se laisse influencer. Mais je crois qu'il a pas besoin de mes conseils. Par tout un tas de minus comme ça, qui sont des procureurs de canapés, parce que, en l'occurrence, quand on parle de climat délétère, des choses que tu as citées au début, ça relève de sa propre organisation, de son management. Si les gens sont pas contents, ils vont travailler ailleurs. C'est un grand artiste, c'est un grand intervieweur, c'est un phénomène social aussi qui porte haut les couleurs de la France. Donc moi, je dis Guillaume Play, il reste sur Play.
Et les vidéos où il faisait des micro-trottoirs et il embrassait les filles de force, ça c'est public, ça aussi c'est normal, parce que les filles n'ont pas porté plainte, donc elles ont tort, c'est ça. Tu sais, ce type de discours est très dangereux. Tu peux pas dire, parce que la femme n'a pas porté plainte, donc c'est des allégations. À la limite, les femmes sont des menteuses ou autres. Ce sont des filles. C'est pas une question de ça, mais non, mais c'est-à-dire que t'es trop vieux. Mais non, mais c'est toi qui me coupes, je t'ai laissé finir.
La mayonnaise, oui, mais il n'y a pas assez d'eux, ça monte pas.
C'est vrai que j'ai le pouvoir.
Ah ben bravo.
Tu veux que la régie mette la Marseillaise à ta blague pourrie, c'est ça?
Un type de ce talent-là.
Ça n'a rien à voir avec rien. Tu sépares l'homme de l'artiste. Tu sépares l'homme de l'artiste.
De bout de ficelle qu'on le fait tomber.
Tu sépares l'homme de l'artiste, alors. C'est ça que tu dis? Mais non, mais assume ton propos.
Et évite des polémiques.
Mais quelles polémiques? Les vidéos, il embrasse les filles.
Où il y a des faits. Mais tu permets. Où il y a des faits délictuels. Et il a vocation à être jugé. Mais pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est un grand artiste.
Oui, mais regarde.
Et crois-moi, on parle pas de l'artiste.
Il survivra.
C'est honteux ce que tu dis.
Fatima.
Alors, il y a plusieurs choses. Je vais d'abord revenir sur ce qui a été dit, qui était, s'il y avait vraiment eu quelque chose, on l'aurait su il y a longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de victimes qui ne parlent pas tout de suite. Et il y a du temps. On a parlé, je parle pas spécialement du cas Guillaume Play, mais maintenant, quand même, on devrait tous savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Donc, des fois, les gens mettent du temps à parler. Il y a la peur de parler parce que ça te coûte. En fait, être une victime, être une survivante, aussi, parler, déjà, ça te coûte. Mais quand c'est en plus face à quelqu'un qui a du pouvoir, qui est aimé, c'est encore plus compliqué. Donc, on peut pas se dire, elles ont tardé, donc c'est faux. Voilà. Pour moi, ce raisonnement-là, il est faux de la même manière que le mythe de la personne violée uniquement par un inconnu. Maintenant, on sait que très souvent, c'est par des gens connus. Voilà. C'est plus la ruelle sombre. On le sait. Normalement, on devrait le savoir. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Au sujet de Guillaume Play, on dit la fin de la légende. Vous avez vu pour Jean-Marc Morandini, malgré, on avait dit on le maintient à l'antenne parce que c'est pas, il y a pas encore eu le procès. Et après, même quand finalement c'était avéré corruption de mineurs. Ils l'ont laissé à l'antenne.
Oui, il a été sorti à un moment, la pression a été trop forte.
Toi, tu dis chasse aux sorcières, apparemment, il ne se passe pas grand-chose.
Oui, mais regarde.
Jean-Marc Morandini, oui, parce qu'après, il y avait la pression de l'opinion publique. Ouais. Mais sinon, regarde la chaîne aussi. L'avait maintenue.
Oui, mais regarde, il y a des acteurs, des humoristes, Harry Habitant qui ont été accusés.
Harry Habitant, il a continué, après, il est revenu.
Il a complètement retrait. Il ne pouvait plus faire de spectacle, il ne pouvait plus monter sur scène.
Il y
a eu une enquête, derrière, il a été blanchi par l'enquête.
En tout cas,
été blanchi. La justice a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Elle n'a pas dit qu'il n'était pas coupable.
S'il n'y a pas de preuves.
En tout cas, pour revenir sur Guillaume Play, avec toutes les précautions nécessaires, moi, j'ai pas du tout été. Sa réponse est insuffisante.
Évidemment.
Dire, je rejoins Abel sur ce point-là lorsqu'il dit, oui, à l'époque, à quelle époque proposer un plan à trois à une mineure de 14 ans? Ou faire des avances sexualisées ou sexualiser une conversation avec une mineure, à quelle époque c'était acceptable? Ça s'appelait déjà corruption de mineurs. Donc il faut qu'il aille plus loin dans l'analyse qu'il fait de lui-même. On attend plus. Voilà, pour moi, sa réponse est insuffisante.
Brice, c'est avec nous, notre ami Brice Dieu, serveur itinérant. Bonjour Brice.
Bonjour Alain.
Qu'est-ce
bonjour
que tu en dis, toi, bonjour. Brice, de cette affaire? Est-ce qu'il doit se mettre en retrait, Guillaume Play?
Non, moi je pense pas, parce que c'est comme comme vous disiez, il a la présomption d'innocence, c'est la justice qui fera la lumière. Mais le petit problème qu'il y a aussi, je pense, c'est qu'en fait, il est en train de révolutionner l'interview et le journalisme, et que ça fait beaucoup de jaloux. Parce que, il fait des millions de vues, ça génère énormément de revenus. Je pense qu'à mon avis, il fait plus de vues que ce que les Inrocks vendent encore de magazines. Donc, quoi de mieux qu'une bonne cabale sur le terrain de l'agression sexuelle. Après, apparemment, il y a quand même quelques preuves. Mais la justice fera l'affaire. Et Guillaume Play, en attendant, il reçoit quand même beaucoup de monde qui veulent plus se rendre sur les plateaux télé. Moi, j'écoute, franchement, je regarde au moins 3-4 fois par semaine ces interviews. Elles sont riches de contenu, elles sont intéressantes. Au bout d'un moment, c'est le public qui décidera s'il doit continuer ou pas. Ça fera comme beaucoup d'autres artistes qui ont été mis en cause pour des faits similaires.
Ouais. Brice, toi, tu dis la présomption d'innocence, et on a Julien, c'est dommage, on n'a pas le temps de le prendre, mais qui a travaillé avec lui et qui nous dit il a toujours été très correct. Il y a une quinzaine d'années, je l'ai jamais vu dépasser les bornes. C'est le témoignage de Julien. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait, Guillaume Play, des réseaux, oui ou non? On va voir ce que vous en dites sur les réseaux sociaux. La consultation existe sur les réseaux, on peut pas la voir, mais elle vous dites oui quand même à 63%. Allez, dans un instant, un témoignage, Antoine Valzan, gestionnaire de biens locatifs. Et quand Airbnb sert à masquer des réseaux de prostitution, il va venir nous en parler.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.